Nous prions avant de lire la Bible. Seigneur, nous allons ouvrir ton vieux livre. Il y a des mots qui ressemblent aux nôtres, qui nous parlent directement, mais c'est aussi un livre écrit à une autre époque, où parfois les mots veulent dire d'autres choses, et puis parfois les mots veulent dire la même chose, et nous rejoignent directement. Mais nous avons besoin, Seigneur, que tu nous éclaires, que tu ouvres nos cœurs, que tu fasses souffler ton esprit, même si parfois nous le faisons souffrir, et puis que tu ouvres nos intelligences pour bien comprendre ce livre, pour qu'il soit vraiment pour nous une parole vivante, de laquelle nous puissions tirer de l'ancien et du nouveau, pour que ton nouveau vienne vivifier notre ancien dans ce monde, dans nos vies. Amen.
Nous lisons d'abord dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe au chapitre 8, verset 23, jusqu'au chapitre 9, verset 3. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre, où il y a maintenant des angoisses. Si le passé a réduit à peu de choses le pays de Zabulon et le pays de Nephtali, l'avenir donnera de la gloire à la route de la mer, à l'autre côté du Jourdain, au territoire des nations. Le peuple qui marche dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui habitent le pays de l'ombre de mort, une lumière a brillé. Tu as rendu la nation nombreuse, tu l'as comblée de joie. Ils se réjouissent devant toi de la joie des moissons, de l'allégresse qui règne au partage du butin. Car le joug qui pesait sur elle, la trique qui frappait son dos, le bâton de son oppresseur, tu les as brisés, comme au jour de Madian. Et nous poursuivons la première lettre aux Thessaloniciens, chapitre 5, les versets 1 à 6. Pour ce qui concerne les temps et les moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous écrive. En effet, vous savez vous-même parfaitement que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand ils diront « paix et sécurité », alors la destruction arrivera sur eux à l'improviste, comme les douleurs de l'accouchement sur la femme enceinte, et ils n'échapperont en aucun cas. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour, tel un voleur, vous surprenne. Car vous êtes tous fils de la lumière et fils du jour. Nous n'appartenons pas à la nuit ni aux ténèbres. Ainsi donc, ne dormons pas comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Et nous terminons en Luc 21, versets 34 à 36. Prenez garde à vous-même, de peur que votre cœur ne s'alourdisse dans les excès, les ivresses et les inquiétudes de la vie, et que ce jour n'arrive sur vous à l'improviste comme un filet, car il viendra sur tous ceux qui habitent la surface de toute la terre. Restez donc éveillés et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à tout ce qui va arriver et de vous tenir debout devant le Fils de l'homme.
Ça serait chouette un monde simple, avait un monde divisé en deux. Alors je ne sais pas si ça serait de ce côté-là et de ce côté-là, ou là, ceux qui sont derrière ou ceux qui sont devant, mais un monde divisé en deux. Il y aurait d'un côté les enfants de la lumière et de l'autre ceux des ténèbres. D'un côté, ceux qui sont du côté du jour, de l'autre, ceux qui sont dans la nuit. Il y aurait ceux qui savent la vérité. Christ est venu et il reviendra. Et les autres qui sont dans l'erreur. Les bons connaîtraient la vraie espérance d'une vie après la mort, emmenée par le Christ lui-même. Les autres sombreraient dans les ruines d'un monde amené à disparaître. Et bien sûr, vous et moi, enfin surtout moi, on serait du bon côté. De la lumière, du jour, de la vérité, de l'espérance et de la vie éternelle. Voilà, ça serait simple. Ce pourrait être l'impression qu'on a quand on lit cette lettre qu'écrit Paul à la communauté de Thessalonique, avec une thématique qu'on retrouve aussi dans les deux autres textes. Mais pour la communauté thessalonique, après tout, ça peut se comprendre. Les membres de cette communauté sont une petite minorité qui a pris des risques. Ils ont quitté la foi de leurs voisins, de leur famille, de leurs amis, pour la foi en Christ. Ils avaient une belle collection de dieux qui remplirait plein d'armoires vitrées, 12 dieux de l'Olympe, de Zeus à Pan, dieu de la fécondité, des dieux qu'on voit partout dans leur ville, sous la forme de statues impressionnantes. Ils ont échangé un riche panthéon pour un seul dieu, tout seul, et qu'en plus, on ne voit pas et ne représente pas. Et son Messie, Jésus, qui est mort sur la croix, loin des super exploits des super héros grecs. C'est la folie pour les Grecs, nous dit Paul ailleurs, dans une lettre à une autre communauté, celle de Corinthe. En plus, leur foi repose non seulement sur quelque chose d'aussi fou que la crucifixion, mais quelque chose de guère plus croyable, la résurrection. Et moins croyable, encore surtout pour des Grecs, le fait que ce Christ qui a rejoint Dieu va revenir. Et le problème, c'est que ça fait déjà bientôt 15 ans qu'il est parti et qu'il ne revient toujours pas. Bref, dans ces conditions, pour tenir dans la foi, il faut se remonter le moral, se serrer les coudes. Il faut mieux croire dur comme fer qu'on a raison, que les autres ont tort, qu'on est du bon côté, alors que peut-être on est un peu sombre dans cette situation de minorité. Se dire qu'on est dans la lumière. Et après tout, ce phénomène, on le connaît bien. Dans nos sociétés, il y a en permanence des constructions en « eux » et « nous ». « Eux » dans l'erreur, « nous » la vérité. Souvenons-nous de la crise du Covid, comme cela a divisé jusque dans nos communautés. Les pro-vax et les anti-vax. Si on a même mis des noms sur ces « eux » et « nous », ça dit combien ça avait divisé et créé des camps. Et c'est vrai que derrière, il y avait une vraie peur, la mort, de soi, des proches, et de vraies interrogations, parce que les informations évoluent en permanence et on pouvait se sentir dans un monde instable. Et donc, pour se rassurer, autant être bien dans son camp. Aujourd'hui, face à la crise climatique, de la même manière, des camps ne sont-ils pas en train de se former? Ceux qui seraient éveillés, conscients de la crise climatique et qui fustigent, ceux qui ne le font pas, ne changent rien et ne voudraient rien changer. À l'autre extrême, ceux qui dénoncent une dictature montante d'une écologie punitive, comme on l'entend, qui nous empêcherait de manger de la viande et nous priverait de la liberté de circuler en voiture. Non mais un Noël sans dinde et puis quoi encore ? Les uns disent « Vous ne voyez pas que ce monde est en ruine, qu'un nouveau monde est en train d'accoucher ?» Les autres répondent « Qu'il nous fiche la paix, laissez-nous tranquille, un peu de sécurité !» Ce sont exactement les mots de la lettre de Paul aux Thessaloniciens. Mais en fait, si on est honnête avec nous-mêmes, n'est-on pas à la fois les uns et les autres ? Cette division ne passe-t-elle pas en chacun de nous ? Certes, nous sommes conscients qu'il faut rester éveillés, ne pas nous endormir dans la foi, aimer son prochain, ne pas être enivrés des biens du monde, mais passionnés de l'amour de Dieu et de nos sœurs et frères. Mais rester éveillés et sobres, rester toujours prêt à accueillir le Seigneur qui revient, toujours prêt à être la main sur le cœur, à faire ce qu'il faut, être tout le temps des héros de la foi, bah ça use. Nous sommes aussi complètement de ce monde et nous avons besoin de paix et de sécurité, de temps en temps de repos. C'est vrai que nous, c'est pareil, on croit tout de même pas à des choses simples. Mort, ressuscité, monté à la droite de Dieu, il reviendra. Et nous attendons qu'il revienne, non pas depuis 15 ans, comme dans la lettre, mais depuis 2023, bientôt 2024 ans. Pas facile. Encore moins facile dans nos sociétés modernes, où la science domine avec l'idée que le vrai, c'est ce qui se démontre, peut se prouver par des expériences qu'il faut reproduire. Dans une société moderne où le vrai, la vérité, c'est ce qu'on a pu fixer sur un appareil photo ou sur une caméra. Alors, allez donc reproduire « mort, ressuscité, monté à la droite de Dieu, il reviendra ». Comment voulez-vous montrer à la télé « il reviendra » puisqu'il n'est pas encore revenu ? Mais de l'autre, si nous sommes des humains aspirant à la tranquillité, à la paix, au confort, à la sécurité, nous avons aussi conscience que les modes de vie qui dominent ce monde ne nous épanouissent pas complètement. Heureux celui qui a un travail qu'il a choisi. Heureux celui qui a choisi son travail et qu'il exerce dans de bonnes conditions. Mais combien sont satisfaits de leur travail ? Mais travailler et consommer, est-ce suffisant ? Quand en plus on n'arrive pas à boucler les fins de mois, comment être heureux ? Bref, le côté ténébreux, nuit, ne nous guette-t-il pas que l'on soit dans le ronron de la vie quotidienne ou l'inquiétude des fins de mois difficiles ? On a alors besoin d'entendre cette interpellation. Changez de vie. Choisissez la lumière, vivez au grand jour, enfantez une nouvelle vie et un nouveau monde. Non seulement restez éveillés, mais réveillez-vous. Il y a sans doute un dernier cas de figure où nous sommes divisés nous-mêmes et où nous avons besoin de nos deux faces. Quand on est sûr, vous et moi, d'être du bon côté, comme Paul, quand il s'adresse à la communauté de Thessalonique en disant « nous, nous de la lumière, nous du jour, nous de la vérité », quand on est persuadé d'être du bon côté, celui de la vérité, n'y a-t-il pas aussi un risque de s'endormir sur cette vérité ? De s'endormir dans la bonne conscience d'avoir raison ? De penser qu'un jour on a été éveillé et que ben c'est bon, on a été vu une bonne fois pour toutes, on n'a plus besoin d'être réveillé par d'autres. Et beaucoup d'incompréhension entre les générations aujourd'hui tourne autour de ça. Comment ça, MeToo, les nouvelles féministes, mais moi j'ai été féministe avant vous. Il faudrait donc veiller à ne pas s'endormir dans la conviction qu'on est dans la lumière. Il faudrait veiller à ne pas s'endormir dans l'idée qu'on est éveillé une bonne fois pour toutes. Par exemple, que l'on soit persuadé à juste titre qu'il faut tout bouleverser pour sauver la planète du risque climatique, ou persuadé au contraire qu'on ne doit pas sacrifier l'emploi, l'économie pour la transition écologique. Dans les deux cas, on croit qu'on est éveillé et on endort son esprit critique. On endort son empathie pour les autres. On endort sa prise en compte de la complexité des choses. On endort sa prise en compte des arguments des autres. Et c'est pareil pour la foi. Mort, ressuscité, monté à la droite de Dieu, et il reviendra. Oui, c'est bon, j'y crois. Ne serions-nous pas endormis ? Sentons-nous, réalisons-nous encore la dimension incroyable, bousculante, inimaginable de ce mort, ressuscité, monté à la droite de Dieu, et il reviendra. Même si on en a une compréhension symbolique, comprendre que du symbolique peut être complètement et doit être, surtout celui-là, bousculant, déplaçant. Pour paraphraser Paul, pour bien le saisir, est-ce qu'on ne devrait pas à nouveau trouver tout cela scandaleux, comme le pensaient les Juifs ? De nouveau réaliser combien c'est complètement fou, comme le pensaient les Grecs. Ne devrions-nous pas trouver des nouvelles manières de le comprendre, de le faire comprendre, de le rendre compréhensible pour aujourd'hui, mais pas pour l'adoucir, pas pour que ce soit conforme avec les manières techniques, financières, bassement rationnelles de comprendre le monde, mais le rendre compréhensible aujourd'hui pour les rendre à nouveau scandaleux, bousculant, inimaginable, mort, ressuscité, monté à la droite de Dieu, et il reviendra. Ça vous choque ? Ben oui, c'est fait pour ça. Et d'ailleurs, c'est sans doute dans ce cas-là, si elles gardent leur caractère fou et scandaleux, que ces réalités de l'autre monde sont réellement complémentaires de celles de ce monde-ci, qu'elles peuvent jouer un rôle d'éveil. Face aux épidémies, à la crise climatique, à nos sociétés qui se divisent face à l'immigration, à la crise profonde de nos démocraties, il va y avoir besoin de plus que des petits espoirs. Plus que le petit espoir de « la technique nous sauvera de la crise climatique ». Celui-ci ne nous endort-il pas face aux changements à mener ? Le petit espoir de « il suffit de fermer les frontières », qui d'ailleurs est complètement impossible. Ce petit espoir ne nous endort-il pas face aux défis de l'accueil des étrangers qui fuit aujourd'hui guerre, dictature et misère, et demain de plus en plus la crise climatique ? Nous avons besoin de plus que de petits espoirs pour ne pas nous réfugier dans le sommeil qui fait éviter le gigantisme des problèmes. Nous avons besoin de plus que des petits espoirs, mais de cette grande espérance qui sonne en permanence comme un réveil. Il est mort, puis ressuscité. Il est monté à la droite de Dieu. Et il reviendra. Oui, nous avons besoin de cette grande espérance. La vie est toujours, à la fin, plus forte que la mort. La fin de l'histoire n'est pas dite. Tout est encore possible.